l'envie de boire beaucoup d'eau, une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine, donc une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de pleurites vaginaux.
Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire?
Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer et finalement, après un bilan, on va faire la glycémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et va conclure à un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre qu'elle fait le diabète gestationnel.
Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour les fœtus, vous savez, c'est l'effet de cycle qui peut amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme.
Quelles peuvent être les conséquences?
Ça peut vous amener à des avortements ou carrément à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie?
Cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperglycémie fœtale, fœto-maternel ou materno-fœtale, qui va transiter vers l'enfant et cela pourra induire à la longue une souffrance fœtale. Cette fois-là, c'est une souffrance fœtale chronique par intoxication due au glucose.
Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à la mort?
Ça peut aussi créer une mort fœtale in utero, ce qu'on appelle mort subite. Surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glycogénie ou une polyurie fœtale qui va être responsable d'excès d'eau ou d'une polyhydramnios. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement?
Lors de l'accouchement, par exemple, l'enfant qui va naître très gros, ce qu'on appelle un macrosome fœtal, ça peut avoir des répercussions lors de la naissance. Si l'enfant est trop gros, il peut avoir, lors de son passage dans les voies génitales, là, l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sortie, ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plexus brachial. Il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
C'est justement ça, parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications?
La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, la femme peut entrer en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme?
Comme je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas les césariennes, l'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures, des parties molles. Et même l'utérus là, qui est trop gros, va amener à des atonies utérines et parfois aussi à des hémorragies de postpartum.
Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à naître. Alphonse Boaki de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents rénaux. Donc, il faut un suivi après l'accouchement, parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
Grady Bieka Mutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel?
Oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes. Principalement, deux volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires.
Quel genre de conseils?
Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation des sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi c'est faire l'activité physique, faire une marche, faire plus des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs, par exemple régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages, ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même l'environnement de la femme.
Docteur, quel est le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux.
Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé?
Ces groupes de médicaments, des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec pincette parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du fœtus qui est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperglycémie, qui est un macrosome, qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux. Chez l'enfant, ça risque de passer au niveau du lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques oraux, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser les taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques oraux, de l'influence chez l'enfant. Donc, ça peut créer des hypoglycémies chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications, on les prend en charge médicalement.
C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Kéba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel? Comment est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel?
Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qui a des antécédents de diabète dans la famille et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme. Il fait souvent des exercices physiques, il ne mange pas avec les bites. Il programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de faire le diabète gestationnel. Donc, quand vous vous connaissez déjà que vous avez des antécédents, vous avez un âge assez avancé, vous avez un surpoids, vous avez un parent ou une sœur ou un oncle qui a déjà souffert de diabète, vous vous trouvez déjà prédisposé. Contrôlez ce que vous mangez, faites des exercices physiques régulièrement et ça vous prévient à faire le diabète. Et quand effectivement vous êtes diabétique, après une consultation, vous prenez les médicaments et ça vous prévient des complications.
Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est une consultation normale, mais seulement la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe souvent le diabète pendant la grossesse.
Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous vous exposez. C'est comme ça que, autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes. Parce qu'à chaque grossesse, il y a une stimulation ou une sécrétion des hormones en cascade dans le corps de la femme. À tout moment, quand une femme tombe enceinte, le placenta sécrète beaucoup d'hormones. Et ces hormones-là sont à la base de l'hyperglycémie parfois, quand surtout ça s'ajoute sur un terrain diabétique. Je l'ai dit tantôt que ces femmes-là étaient prédisposées à subir des césariennes avec des dystocies des épaules ou des fractures de l'épaule chez l'enfant et tout ça. Donc, naturellement, au fur et à mesure que cette femme-là a une grossesse, deux grossesses, donc chaque grossesse de plus expose cette dame-là de plus en plus. Naturellement, déjà, autour de la quatrième, de la cinquième parité, donc de la quatrième, cinquième grossesse, on devra déjà penser à faire une contraception chez cette femme qui fait le diabète gestationnel pour l'épargner de beaucoup de complications qu'elle peut avoir. Et aussi, si c'est une femme très âgée, donc ce sont des personnes, des sujets, on doit veiller à faire une contraception pour éviter de les faire courir des risques déjà graves par rapport à leur état, qui vont être majorés par rapport aux grossesses qui vont s'ajouter.
Est-ce que le diabète gestationnel ne se développe que pendant la première grossesse ou la femme peut avoir des grossesses sans diabète et plus tard, peut-être à la troisième ou à la quatrième grossesse, développer un diabète?
Oui, ça peut arriver chez une femme à la première grossesse, surtout quand elle a des prédispositions. Comme aussi ça peut arriver à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Ça dépend des prédispositions de chaque femme. Donc il n'y a pas une ligne de démarcation qui dise que c'est seulement à telle grossesse ou à telle autre grossesse. C'est là où se trouve le bien fondé des consultations prénatales que les femmes doivent faire régulièrement.
Merci Dr Nkeba. Pour finir notre interview, un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, c'est seulement celle de leur dire que quand elles sont enceintes, déjà au premier jour, là, quand elle a remarqué au premier mois qu'elle n'a plus de règles, sitôt, elle doit aller consulter. Et lors des consultations, la femme doit exiger à ce qu'on lui fasse tous les bilans possibles, parce que dans certains milieux, il y a des bilans qui sont limités et tout ça, mais je pense qu'au moins partout, on est accessible à faire des examens de routine. Ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elle constate qu'elle n'a plus de règles, elle doit se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ses CPN. Et lors de CPN, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
Merci beaucoup, Dr Nkeba, de nous avoir accordé cette interview.
Non, c'est moi qui vous remercie pour la confiance.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le métier de sage-femme. Une maternité pour communautés défavorisées au Malawi bat un record, plus de 8000 accouchements et aucun décès. Ensuite, une sage-femme aux États-Unis nous parle de sa profession. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une professionnelle de la santé chargée d'assister les femmes pendant la grossesse et l'accouchement. La sage-femme dont nous parlons aujourd'hui prodigue aussi les premiers soins aux nouveau-nés. Le métier de sage-femme est pratiqué par des femmes depuis l'Antiquité, mais compte aujourd'hui un nombre important d'hommes, aussi appelés sages-hommes ou maïeuticiens. L'OMS estime que sur plus de 43 millions d'agents de santé dans le monde, presque 21 millions sont des infirmières et des sages-femmes. Partons tout de suite au Zimbabwe où, avec un système de santé qui s'effondre et les grèves des travailleurs médicaux, certaines femmes ne dépendent que des sages-femmes et sont obligées d'accoucher dans des conditions insalubres. Reportage à Harare de Columbus Mavunga, récit de Claire Morin-Gibourg.
Les cliniques zimbabwéennes sont souvent obligées de suspendre leurs activités en raison des grèves du personnel médical déclenchées en septembre pour obtenir de meilleurs salaires. Les femmes enceintes sont obligées d'obtenir l'aide de sages-femmes pour accoucher, trop souvent dans l'insalubrité.
Je demande à chaque future mère d'apporter une lame de rasoir, une épingle pour le nombril du bébé et du coton. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Les mères se reposent pendant que je m'occupe de la suivante.
À 74 ans, Zinyoro Gwenya a déjà aidé à accoucher près de 250 bébés en novembre, soit 13 enfants en moyenne par jour. Bien qu'elle affirme que toutes les mères et tous les bébés ont survécu, le manque d'assainissement signifie un risque d'infection plus élevé. C'est aussi le signe de la détérioration des soins de santé dans le pays, explique l'Association des médecins des hôpitaux du Zimbabwe.
It's a sad situation that we find ourselves in.
C'est une triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Les femmes accouchent maintenant dans des endroits qui ne sont pas stérilisés et qui ne répondent pas aux exigences minimales de l'OMS pour un accouchement. C'est à l'image de notre système de santé qui est au bord de l'effondrement. Les patients sont à la recherche de méthodes de santé alternatives. Nous appelons les autorités à agir avec urgence.
Les médecins et les infirmières du Zimbabwe souhaitent que le gouvernement fournisse également des équipements modernes aux cliniques et aux hôpitaux qui ont souffert de l'effondrement de l'économie. Les autorités affirment être conscientes des problèmes de santé et s'efforcent d'y remédier.
Nous sommes au courant de la situation dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour nous assurer que les ressources durables et adéquates requises par les médecins sont fournies.
Pendant ce temps, les femmes enceintes au Zimbabwe n'ont pas d'autre choix que d'accoucher dans des conditions insalubres qui mettent leur bébé et elles-mêmes en danger.
La fondatrice d'une maternité dans une communauté défavorisée au Malawi dit qu'elle a établi un record, la naissance de plus de 8800 bébés sans aucun décès de mère ou d'enfant. Pour ses efforts remarquables, Charity Salima est devenue la Florence Nightingale de Malawi, la fondatrice anglaise des soins infirmiers modernes. Reportage de Lamek Massina.
Grace a donné naissance en novembre dernier à un bébé en bonne santé, son quatrième enfant, à la clinique communautaire à Chikondi. Depuis 2008, cette maternité a pour ambition d'aider les femmes qui n'ont pas assez de moyens à accoucher en toute sécurité. Depuis lors, la clinique a effectué plus de 8800 accouchements avec succès, sans perte de mère ni d'enfant, selon sa fondatrice. C'est un record remarquable au Malawi, un pays où, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le taux de mortalité moyen pour 1000 naissances est de 22 décès pour les bébés et 6 pour les mères.
Il y a une grosse différence. Les hôpitaux publics sont encombrés, les femmes accouchent par terre et parfois une infirmière est responsable de 3 femmes enceintes. Cela compromet la santé des mères et des enfants, mais ici, j'ai reçu un bon traitement.
Les chiffres de l'accouchement réussi fournis par la clinique signifient que l'établissement bat non seulement la moyenne mondiale de 17 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances, mais également la moyenne des pays riches. En Grande-Bretagne cette année, Charity Salima a reçu le prix Point of Life du Commonwealth pour ses efforts dans la lutte contre la mortalité infantile.
Tout ce succès est arrivé parce que nous arrivons à prendre en charge les complications le plus tôt possible. La détection précoce de toute anomalie et la réponse adéquate aux besoins, c'est ce qui nous a permis de réussir.
Les soins sont gratuits et le bâtiment a été construit grâce aux dons de l'Écosse et de la Norwegian Nurse Organization. La fondation caritative Freedom from Fistula, basée aux États-Unis, intervient aussi en cas de traitement des blessures liées à l'accouchement et finance le dispensaire.
Toutes nos félicitations à Charity Salima et tout son personnel pour cet accomplissement exceptionnel. Nous avons demandé votre avis sur le métier de sage-femme. Qu'en pensez-vous? Quelle place occupe-t-elle dans le domaine médical chez vous? Voici vos réactions sur Facebook. Jonathan Chiswaka écrit « La sage-femme est un métier noble et doit bénéficier d'un accompagnement digne. » Archiduc Théodore de N'Djamena dit « Pour moi, la sage-femme doit avoir un bon cœur, sinon il y aura des mauvais accouchements ou des difficultés pendant l'accouchement. Son sourire guérit plus que tout. » Dans les pays dits sous-développés, les sages-femmes sont parfois les seuls professionnels de la santé dans certaines communautés. Cependant, leur rôle n'est pas moins pertinent dans les pays industrialisés. Kathleen Belzer est présidente de l'Association des infirmières et sages-femmes de Californie. Elle nous en dit plus.
In labor, midwives actually care for women prenatally during.
Le rôle de la sage-femme en général est de prendre soin des femmes enceintes, les suivre durant leur grossesse, pendant l'accouchement et même après. Nous prenons également en charge les soins contraceptifs, les soins gynécologiques, disons les soins prodigués aux femmes tout au long de leur vie. Il existe de nombreuses idées fausses sur la sage-femme. Parfois, les gens pensent que la notion de sage-femme appartient au passé. Pourtant, dans de nombreux pays encore, les sages-femmes opèrent la grande majorité des naissances. Aux États-Unis, nous avons l'un des plus forts taux de mortalité maternelle au monde et nous ne disposons pas de sages-femmes intégrées dans les soins. Et il existe de nombreuses études qui corroborent le fait que si la sage-femme était intégrée dans les soins prodigués, il y a bien sûr de nombreux avantages que la sage-femme apporte. Nous pourrions avoir une diminution de l'utilisation des innovations médicales lorsque le besoin n'y est pas. Aussi, une diminution du taux de césarienne, car cela implique la chirurgie abdominale qui est un élément majeur. Mais en plus de cela, si vous avez une césarienne, votre grossesse et vos naissances qui suivent sont très compliquées et cela peut être très compliqué. Nous rédigeons donc de nombreuses innovations et notre service est bien meilleur et notre coût est beaucoup plus faible car nous n'utilisons pas une innovation inutile. Il existe actuellement une énorme disparité dans les soins destinés aux femmes. Les femmes noires sont 4 fois plus susceptibles de mourir en couche comparées aux femmes blanches pendant leur accouchement prénatal ou après ou immédiatement après l'accouchement. Lorsque les sages-femmes participent aux soins, ces disparités sont moindres. Nous offrons également des soins à la communauté marginalisée et nous sommes très dévoués à ce travail. Il existe actuellement de nombreux obstacles en Californie. Nous avons autant d'États dans le pays, 9 comtés sans prestataire d'obstétrique, pas de soins pour les femmes, ni de soins prénatales pour leur expérience de naissance. De plus, nous ne pouvons pas traiter ces cas jusqu'à ce que nous puissions modifier la législation.
C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Fin de cette édition hebdomadaire de Votre santé, votre avenir. Nous avons discuté avec le docteur Timothée Nkiba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.